franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour
pour
Patrick.
La revue de presse ce matin dans la presse, l'humain d'abord.
Il y a les chiffres qui s'accumulent et qui font masse. Les photos de chaloupes qui chavirent et les corps anonymes à la surface de la mer. Les reportages sur ces hommes, femmes et enfants agglutinés le long d'une frontière hérissée de barbelés. Il y a les mots qui s'entrechoquent, réfugiés, migrants, Schengen, invasion... Mais derrière ce qui reste pour beaucoup d'entre nous une abstraction, eh bien il y a des êtres humains uniques, singuliers, porteurs chacun d'une histoire propre. Pas des migrants, des vivants, titre ce matin le quotidien L'Humanité pour annoncer la sortie aujourd'hui sur vos écrans du film Méditerranéa de Jonas Carpignano. Méditerranéa raconte l'histoire vraie d'un jeune homme qui a quitté le Burkina Faso en quête d'une vie meilleure, périple à travers l'Algérie, la Libye, traversé sur des camions bondés, puis traversé en mer sur une embarcation de fortune pour atteindre enfin la côte sud de l'Italie. Une errance qui vaudra à ce jeune réfugié l'hostilité de la population locale et des violences racistes. C'est un film de fiction qui a le mérite de nous sortir de l'abstraction, écrit le journal, d'arracher l'humain à la sclérose de la globalisation et de nous rendre donc sensibles à cette expérience de l'exil.
L'attachement à l'humain, ce n'est pas que de la fiction, Hélène, c'est aussi une réalité rapportée par vos journaux.
Oui, cette humanité, c'est effectivement ce qui a poussé hier des milliers d'Allemands à se précipiter à la gare de Munich. Témoignage dans les Échos de Mélanie, 42 ans. J'ai entendu à la radio que beaucoup de réfugiés étaient venus dans la nuit, alors je suis venue aider spontanément. Avant de reprendre le bus, ces réfugiés sont accueillis par une multitude de bénévoles qui leur distribuent de la nourriture, des couches, des jeux pour enfants ou des parapluies. Albert, retraité de 76 ans, venu de Ratisbonne en voiture, n'a qu'une idée en tête, ramener une famille. La maison d'un voisin est vide, explique-t-il. Une solidarité largement relayée, organisée sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, mais qui rappelle, raconte l'envoyé spécial en Allemagne Thibaut Madelin, ces scènes de vagues d'Allemands de l'Est venues par la Hongrie avant la chute du mur en 1989. Et puis le même toujours quand certains se souviennent qu'ils sont des fils de migrants. À lire sur le site de Respect Magazine, le magazine de la diversité, l'appel de Charles Aznavour à construire une future existence aux migrants. C'est une chose que je n'ai pas connue, mais je pense que mes parents, qui ont fui l'Arménie, ont dû vivre cette vie-là, témoigne-t-il. Sur les routes aujourd'hui, il y a toutes les professions, médecins, boulangers, garagistes. Qu'ils s'installent dans nos villages, plaide le chanteur. À ce moment-là, on montrerait la France comme un modèle.
Des histoires d'hommes encore, Hélène, quand on parle d'économie et notamment d'agriculture.
Alors que plus d'un millier de tracteurs montent sur Paris et devraient demain bloquer la capitale, le cri du cœur du vice-président de la FNSEA, Joël Limousin, dans Aujourd'hui en France le Parisien. Nous sommes en train de mourir, lance-t-il. Depuis janvier, on enregistre un dépôt de bilan par jour. C'est une hémorragie. L'hebdomadaire Le 1 consacre son numéro de la semaine à la grande dépression des paysans. Et c'est Éric Fotorino qui pose la question. Vivons-nous la fin des agriculteurs? C'est un fait, note-t-il. L'agriculture mondiale n'échappe pas à la financiarisation. L'agriculture devient étrangère à toute notion d'exploitation familiale, avec ce qu'elle comprend d'enracinement dans le temps et l'espace, à travers des générations d'agriculteurs qui se sont transmis un savoir-faire de père en fils. Alors, que faire pour ces agriculteurs comme expulsés de leur mode de vie et de production d'avant, se demande Fotorino dans le 1. Leur désarroi nous interroge. Voulons-nous une agriculture vraiment compétitive qui supposerait d'éliminer encore la moitié des paysans français et de pousser ceux qui resteront sur les voies du gigantisme? La réponse suppose de redéfinir le rôle de l'État, conclut-il. Place de l'État, place de l'homme, de chaque homme dans l'économie, c'est aussi le thème d'une chronique d'Edouard Tétrault dans les Échos. Partant de la supercherie du site de rencontre Ashley Madison, dont le piratage a mis en lumière qu'il avait gonflé impunément son nombre d'utilisateurs. Il y avait en fait plus de faux comptes et de robots que de vrais humains à être tentés par l'adultère. Partant aussi du constat que les algorithmes et les automates ont pris le pouvoir dans les salles de marché, conféré le krach boursier de la semaine dernière en Chine notamment, Edouard Tétrault nous met en garde contre l'uber-économie. Cette économie de carton-pâte, dénonce-t-il, incroyablement vulnérable et fragile, déplaçant valeurs et richesses à la vitesse de l'éclair avec des êtres humains confinés à la périphérie. Le moment est venu de repenser, dit-il, de fond en comble, les fondamentaux d'une économie devenue beaucoup trop hostile aux êtres humains. Remettre l'homme au cœur de tout, ça fait un peu slogan politique vintage, mais on sent ce matin dans la presse que cette interrogation traverse toute notre société.
On termine, Hélène, par une drôle de cérémonie.
Alors, pas celle du mea culpa de François Hollande, vous en avez parlé, qui dans un livre écrit par Françoise Fressoz, Le stage est fini, avoue que sur la fiscalité, effectivement, il regrette d'être revenu sur la hausse de la TVA décidée par Nicolas Sarkozy. Libération accole à François Hollande le qualificatif de lucide quand le journal communiste L'Humanité fustige cet aveu pitoyable, dit-il, qui marque l'enfermement présidentiel dans les logiques libérales. Pas la cérémonie non plus, celle qui consiste à faire de vous, Alain Juppé, une cible avec un panneau « Wanted », l'homme à abattre. C'est ainsi que les Échos vous présentent ce matin, à abattre conjointement par François Hollande et par Nicolas Sarkozy, qui rêvent tous les deux de rééditer leur duel en 2017. Alors du coup, vous êtes l'homme en trop, évidemment. À abattre aussi par les petits jeunes qui débarquent. Dans un article du Monde daté d'aujourd'hui, Bruno Le Maire vous juge définitivement trop timoré. Ça vous plaît, timoré, comme adjectif ?
Non, c'est pas mon vocabulaire. Moi, je suis réaliste et modéré. Et je ne me droitise pas pour faire plaisir à mon électorat, à toute force. Hein.
Alors, en fait, je voulais parler d'une autre cérémonie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Alain Juppé, de la cérémonie druidique du hibou ? Ça vous dit quelque chose ?
Pas encore, mais vous allez me...
Pas
briefer.
Encore, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut être président ou en tout cas Premier ministre. Mais vous avez été Premier ministre pour connaître cette cérémonie. Alors, c'est
savoir.
L'ancien Premier ministre Michel Rocard qui nous révèle l'existence de ce rite et de ce club ultra select dans la revue Schnock qui paraît aujourd'hui. Tous les ans, 2000 membres exclusivement masculins, la crème de la crème des Républicains, des dirigeants politiques, économiques et financiers se retrouvent au pied des Rocheuses. Pour y faire quoi ? Eh bien, ils y jouent au cow-boy et puis ils se retrouvent quand même aussi entre Happy Few. C'est Henry Kissinger qui, en 1989, a invité Michel Rocard, alors Premier ministre, et Michel Rocard donc raconte. Alors c'est comme un camp de vacances, on couche en forêt à 7 ou 8 sous des huttes en bois. Le soir, ce sont des jeux de lasso, des danses, tout le folklore américain, puis on boit le coup joyeusement. Alors Michel Rocard est invité à l'époque à faire le discours de la session, il causera relations franco-américaines. Pour assister à mon laïus, raconte-t-il, Kissinger, Jim Baker, David Rockefeller, le gratin, quoi, tous en tenue de cow-boy. J'ai trouvé ça rigolo, un petit peu étrange quand même, mais d'une certaine façon, tout ce qui est américain est un peu étrange, conclut l'ancien Premier ministre, qui lui a échappé au rite du hibou, c'est l'emblème du club, qui consiste à écouter religieusement la voix d'un des fondateurs du club, donc qui sort d'une grande statue géante de hibou. Voilà à quoi s'occupent les grands de ce monde bizarre tout de même. Ça vous fait envie ou pas ?
Je vais vous faire une confidence, je déjeune avec Michel Rocard, donc j'ai trouvé au moins un sujet de conversation.
Eh bien voilà, de quoi vous allez parler, il va vous raconter la cérémonie du hibou.
Ces souvenirs de scout façon adulte. Merci Hélène Jouan pour la revue de presse sur Internet.